Lizzie présente Moi, Médicis de Matteo Strucul, lu par François Montaigu. À Silvia. Février 1429. Chapitre 1. Santa Maria del Fiore. Il leva les yeux vers le ciel. On aurait dit qu'il était chargé de poudre de lapis-lazuli. Pris de vertige, il perdit brièvement le fil de ses pensées. Puis il baissa la tête et regarda autour de lui. Les maçons préparaient le mortier, incorporant la chaux au sable clair de l'Arno. Certains déjeunaient sur le pouce, perchés sur des murets. Les ouvriers accomplissaient par roulement des tâches éreintantes, de sorte qu'ils passaient fréquemment des semaines entières sur le chantier, dormant sur des plateformes en bois, des plaques de marbre, parmi les briquettes et les gravats. À plus de 150 coudées, soit environ 75 mètres, du sol. Côme se faufila entre les échafaudages sombres, alignés comme les dents acérées de quelque créature fantastique. Il marchait prudemment, de peur de déraper dans le vide. L'image de cette cité surplombant la ville le captivait autant qu'elle l'emplissait d'effroi. Il gagna lentement la base de la coupole en construction, surnommée le tambour par les architectes et les contremaîtres. Puis son regard se porta au-delà des installations, en direction de la place sous-jacente d'où les Florentins admiraient Santa Maria del Fiore, les yeux écarquillés. Ainsi réunis, cardeurs, marchands, bouchers, paysans, prostituées, aubergistes et vagabonds, semblaient prier en silence pour que le projet de Filippo Brunelleschi parvienne à son accomplissement. Le dôme tant attendu commençait à prendre forme, et la réussite de cette entreprise revenait à l'orfèvre insensé et chauve, aux dents gâtées et au tempérament de feu. Côme le vit errer comme une âme en peine parmi les amoncellements de matériaux et les piles de parpaings. Si pensif qu'il paraissait absent, l'homme était absorbé dans un labyrinthe de calculs. Son visage à la peau blanche était illuminé par des yeux aussi clairs que des gouttes d'albâtre, piqués d'éclats de couleur. Le chant des marteaux le sortit d'un énième moment de désarroi. Les forgerons s'étaient remis à l'œuvre. L'air vibrait de mille avertissements et instructions. Côme inspira profondément, puis abaissa son regard vers l'assise de l'octogone. Le treuil gigantesque conçu par Filippo Brunelleschi pivotait perpétuellement sur lui-même. Deux bœufs enchaînés, imperturbables, trottinaient sans bruit. Conduit par de jeunes garçons, il tournait en rond, engendrant un mouvement rotatif qui actionnait des roues crénelées et des engrenages fixés à la tige du treuil, qui, à son tour, soulevait des blocs de pierre d'une lourdeur prodigieuse pour les hisser à des hauteurs inatteignables par d'autres procédés. Brunelleschi avait inventé des engins stupéfiants. Après qu'il les eut dessinés, il avait sollicité les meilleurs artisans et fait travailler ses manœuvres d'arrache-pied. En très peu de temps, il disposait d'un arsenal de machinerie ingénieuse, capable d'élever et de positionner en des points précis aussi bien des plaques de marbre que les armatures en bois des échafaudages, ou encore des centaines de sacs de sable et de mortier. Côme aurait aimé crier pour libérer son allégresse et sa satisfaction devant l'admirable avancée des travaux. Personne n'avait réussi à concevoir une coupole adaptée au plan octogonal du maître-autel avant lui. Personne. Couronner un espace de 85 coudées, c'était une prouesse en soi. D'autant plus que l'envergure de la coupole de Filippo dépassait ses dimensions sans s'appuyer sur aucun soutènement apparent. Pas d'arc-boutant extérieur, ni de cintre en bois intégré à la structure, comme Neri di Fioravanti l'avait proposé avant lui. L'œuvre du dôme, commanditaire de la réalisation de la coupole, en était restée éberluée. Certains qualifiaient Brunelleschi de génie, d'autres de fou. Peut-être étaient-ils l'un et l'autre. Quoi qu'il en soit, les Médicis avaient adopté son génie autant que sa folie. Comme le premier. Amusé par son audace, il songea aux retombées d'un tel accomplissement non seulement pour la ville, mais aussi pour lui-même. Et à en juger par ce qui se produisait dans les hauteurs, les raisons de s'extasier ne manquaient pas, surtout pour lui qui suivait ce chantier en expansion permanente. Cette tour de Babel fourmillante d'agitation regroupait sur ses plateformes et ses échafaudages toutes sortes d'artisans, charretiers, maçons, cordiers, charpentiers, ajusteurs, mais également des aubergistes chargés de vendre du vin et même de cuisiner, grâce à un four destiné à cuire le pain servi aux ouvriers durant les pauses. Certains d'entre eux escaladaient les armatures en bois. D'autres besognaient depuis les marchepieds en osier, qui, suspendus au toit tout autour, évoquaient des nids d'oiseaux, comme si les hommes avaient requis l'aide des cigognes pour mener à bien cette entreprise titanesque. « Qu'en pensez-vous, messire Combe ?» demanda Philippot de sa voix feutrée mais autoritaire. Combe se retourna, virevoltant presque vers l'architecte dont le visage maigre aux yeux exorbités lui donnait un air fantomatique. Il n'était vêtu que d'une modeste cotte rouge. Son regard affichait un mélange de fierté et d'animosité, révélateur de son caractère rebelle et violent qui s'adoucissait dès lors qu'il s'adressait à un grand esprit. Combe ignorait s'il appartenait à cette catégorie. En revanche, il était bien le premier-né de Jean de Médicis et un membre de la famille qui contribuait généreusement au financement de l'œuvre après avoir soutenu de façon décisive la candidature de Brunelleschi. « C'est magnifique, Philippot, magnifique !» répondit-il en se préparant à exprimer tout l'émerveillement visible dans ses yeux. « Je ne m'attendais pas à ce que la construction progresse aussi rapidement. » « Nous sommes encore bien loin d'avoir fini, je tiens à être clair. L'essentiel, messire, est qu'on me laisse travailler. » Tant que les Médicis, les premiers mécènes de cette merveille, seront là, vous n'aurez rien à craindre. Sur ce point, vous avez ma parole, Philippot. Nous avons commencé ensemble, et c'est ensemble que nous terminerons. » Brunelleschi hocha la tête. « Je m'emploierai à achever la coupole selon les canons classiques, conformément au projet. Je n'en doute pas, mon ami. » Pendant qu'il s'entretenait avec Combe, le regard de Philippot filait en tous sens. Vers les maçons qui mélangeaient le mortier et empilaient les briques, vers les forgerons qui martelaient sans répit et les charretiers qui transportaient des sacs de chaux en contrebas sur la place. Dans sa main gauche, il tenait un parchemin saturé d'esquisses préparatoires. Dans la droite, un scalpel. Dieu seul savait quel usage il en ferait, car Philippot n'était jamais à court d'idées. Puis, comme il était apparu, Brunelleschi prit congé en ébauchant un discret mouvement de tête. Il s'enfonça entre les travées de bois et les structures de la coupole intérieure, englouti par son œuvre colossale et ses préoccupations, palpitant d'énergie et bouillonnant de vie. Combe resta seul devant les arcs de bois massif, parmi les échos des cris accompagnant la progression d'une énième cargaison tirée par le treuil. Une voix sévère déchira soudain l'air derrière lui. « Combe !» Il se tourna, prenant appui sur l'échafaudage, tandis que Laurent, son frère, hâtait le pas dans sa direction. Il n'eut pas le temps de le saluer. « Combe ! C'est notre père. Notre père est mourant. »